Radio Okapi.
Vous savez, l'étourien nouveau gouverneur, le général-major Gabi Kasongo Mulumba, il remplace le général Johnny Elouboya Kachama en poste depuis 2021. Alors, qu'est-ce que la population retient de son passage à la tête de la province? Vous le découvrirez dans ce journal. Alerte à la pollution à Lubumbashi, l'ONG IRDH accuse la société Somika d'avoir déversé des résidus d'acide dans la rivière Kasanta, cours d'eau qui dessert également la population. Les faits remontrés à avril dernier, des accusations que Somika rejette. Comme invité, Michel Mbuyu Yengayenga, un des responsables du réseau de l'artisanat minier dans la province du Lualaba. Il revient sur l'importance des 33 zones d'exploitation artisanale qui viennent d'être créées par le gouvernement au profit des creuseurs artisanaux et fait également une proposition pour une bonne gestion de ces sites miniers. Madame, Monsieur, bonjour. Nous commençons donc en Ituri. La nomination d'un nouveau gouverneur en remplacement du général Johnny Elouboya Kachama suscite des réactions diverses. Certains saluent les avancées enregistrées sous son mandat, notamment sur le plan sécuritaire et des infrastructures. D'autres estiment que l'objectif principal de l'état de siège, le rétablissement de la paix, n'a pas été atteint. Nous faisons le point avec Isaac Raymond.
L'annonce du changement à la tête de la province de l'Ituri continue de susciter des réactions à Bunia. Pour certains habitants, le mandat du général Johnny Elouboya Kachama a été marqué par des avancées significatives. Il cite notamment la construction de certaines infrastructures publiques, la modernisation de la voirie urbaine ou de l'aéroport de Bunia, ainsi que l'amélioration de la sécurité dans les territoires d'Irumu et une partie de celui de Djougou, de Gracias Bungamuzi, habitant de Bunia.
L'Ituri, dans certains territoires comme Irumu, comme une grande partie du territoire de Ndjougou, mais également le territoire de Mahagi, la situation était catastrophique avant l'arrivée de Johnny Elouboya Kachama. Mais avec beaucoup d'engagement, aujourd'hui, plusieurs entités de notre province sont à paix, en dehors des cas isolés.
D'autres dressent toutefois un bilan plus mitigé. Selon eux, malgré ces réalisations, l'objectif principal de l'état de siège, le rétablissement de la paix, n'a pas été atteint à raison de la persistance des groupes armés et des milliers de personnes vivent encore dans des sites déplacés.
En vérité, sur le plan sécuritaire, Elouboya a échoué. Nous le félicitons pour le développement parce que Bunia est devenu plus propre. Mais côté sécurité, les groupes armés sont toujours là avec leurs armes et les habitants n'ont pas accès à leurs champs. Cela prouve que la sécurité n'est pas encore une réalité chez nous.
Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Prenons Kivu, la commune rurale d'Oicha, chef du territoire de Beni, est érigée au rang de ville par un arrêté du 22 mai 2026 du ministre de l'Intérieur. Selon la société civile de cette nouvelle entité, cette décision est l'aboutissement d'une lutte de longue haleine. Elle marque l'ouverture de la ville d'Oicha vers de nouvelles opportunités ainsi qu'une stabilité renforcée. Isaac Kavalami, président de la société civile locale, s'exprime à ce sujet au micro de Marc Marofimbo.
Cette nouvelle nous donne la joie parce que c'est une lutte de très longtemps. Imaginez, le décret c'est à 2013, maintenant la concrétisation en 2026. C'est quelque chose qui vient de durer. Et pour nous, c'est un soulagement parce que toutes les autorités qui arrivaient dans cette entité, on ne manquait pas de les rappeler la concrétisation de notre ville. La ville de Oicha, c'est une opportunité économique, une opportunité pour la jeunesse parce qu'il y aura des services qui n'existaient pas dans la commune qui seront maintenant installés au niveau de la ville. Ce sont des opportunités. Il y aura maintenant une considération plus large que la commune, parce que c'est au niveau national, on va maintenant aussi songer à la ville. Il y aura des infrastructures qui peuvent aussi être installées au niveau de la nouvelle ville. Nous avons un défi sécuritaire. Avec la lutte que nous sommes en train de faire sur le plan sécuritaire, nous pensons que la stabilité sera effective. Nous allons retourner dans nos champs et cette coalition que nous sommes en train de faire, armée, population, gouvernants, ça va nous amener sûr à la solution sécuritaire.
Et ce même arrêté a également accordé à la cité frontalière de Kassindi le statut de commune. Les animateurs de ces deux nouvelles entités urbaines sont déjà connus et devraient officiellement entrer en fonction dans les prochains jours. La gestion de la foresterie communautaire dans la province de La Tchopo fait école. Étendue sur 1 200 000 hectares, elle inspire d'autres provinces à l'instar du Sud Kivu, dont une délégation est arrivée à Kisangani pour s'imprégner de ce modèle pour l'appliquer aussi à son tour. Le point avec Jacques Moukonkole.
La délégation du Sud Kivu est venue chercher à Kisangani une expertise pionnière. Elle a visité les concessions forestières des communautés locales à 206 et 211 km sur l'axe Bafoua-Sendé. Objectif et visé, se rendre compte de réalités locales qui peuvent être dupliquées dans le Sud Kivu. Didier Kabi, ministre provincial de l'agriculture du Sud Kivu, apprécie ce modèle qu'il ambitionne désormais d'importer.
Je me suis rendu compte que Xatropenbos a fait un travail énorme ici. C'est lui de l'appropriation par la population de l'importance de la foresterie communautaire.
Cette reconnaissance du savoir-faire local sonne comme un couronnement pour les acteurs de la société civile environnementale, dont l'ONG Tropenbos RDC, qui gère cette foresterie communautaire. Professeur Alphonse Maindo, directeur de Tropenbos RDC.
Cet échange d'expérience est très important. Bien sûr que nous sommes plus avancés que la province du Sud Kivu, ce qui est motif de fierté. C'est une invitation à aller de l'avant, à mieux faire.
Au-delà de ce partage d'expérience, les deux provinces regardent désormais dans la même direction. Le Sud Kivu et la Tchopo scellent une alliance stratégique. Elles préparent un plaidoyer commun auprès du gouvernement central à Kinshasa. L'objectif est double, obtenir un appui technique renforcé pour les communautés et surtout, capter de manière équitable les dividendes financiers du marché des crédits carbone. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Lutte contre Ebola. En Ituri, la sécurité est renforcée autour des centres de traitement d'Ebola et des structures sanitaires engagées dans la riposte, aussi bien à Bunia qu'à l'intérieur de la province. Parmi les mesures prises, une base mobile des casques bleus de la MONUSCO a été déployée à Mongwalou, dans le territoire de Djougou, pour appuyer les services de sécurité. Objectif, protéger le personnel de santé et les installations médicales dans une zone où la désinformation et la méfiance envers la riposte restent présentes. Qu'en est-il, Isaac Raymond?
Le dispositif sécuritaire a été renforcé dans plusieurs centres de traitement d'Ebola, notamment à Rwampara, Bunia et Mongwalou. Des policiers assurent la garde des sites afin de prévenir d'éventuels incidents et garantir la sécurité des personnels soignants. Cette présence est également observée dans plusieurs structures sanitaires publiques et privées impliquées dans la prise en charge des malades. Même les enterrements sécurisés bénéficient désormais d'une protection renforcée après les incidents enregistrés il y a une semaine à Bunia, où des membres d'une équipe de riposte avait été agressé lors d'un enterrement. Pour appuyer les efforts du gouvernement, la MONUSCO a déployé depuis jeudi une base mobile des casques bleus à Mongwalou, l'un des principaux foyers de l'épidémie. Cette présence vise à renforcer la protection des travailleurs humanitaires, des équipes médicales et des infrastructures de santé. Selon plusieurs sources, cette mesure contribue à améliorer les conditions de travail des équipes de riposte et à faciliter la prise en charge des patients. Par ailleurs, les actes de résistance et les menaces contre les équipes des ripostes semblent diminuer progressivement grâce aux campagnes de sensibilisation menées auprès des communautés pour lutter contre la désinformation autour de cette épidémie déclarée le 18 mai dernier à Ituri.
C'est donc la Shindani Kambala qui a rendu ces informations recueillies par Isaac Raymond Oyopé. Non Kivu, face à la recrudescence de la maladie à virus Ebola et l'activisme des rebelles des ADF, les élus provinciaux appellent la population à une collaboration étroite avec les autorités. Ils insistent notamment sur la nécessité d'informer les services compétents à temps et d'éviter toute forme de désinformation autour de la maladie à virus Ebola. Cet appel ressort d'une réunion d'évaluation tenue hier vendredi autour du gouverneur de province, rencontre consacrée à la situation sécuritaire et sanitaire dans la région. Pour ces élus, la seule réponse efficace face à ces deux menaces reste une franche collaboration entre la population, les services de sécurité et les autorités administratives. Robert Seninga, président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu qui a conduit cette délégation, s'est confié à ce sujet au micro de Marc Marofimbo.
Nous avons été informés de la façon dont on gère la situation d'Ebola et nous avons constaté que l'autorité s'y met sérieusement et que nous pensons qu'il y a lieu de sortir de cette pandémie. D'aider sur la situation sécuritaire, nous avons échangé avec lui et nous avons donné des propositions. Il nous a donné aussi ce qu'ils ont prévu pour en train de faire afin de pouvoir sécuriser les populations de la ville de Beni et du territoire de Beni. La première des choses que nous demandons à la population, c'est avoir la confiance aux dirigeants et de partager l'information dans l'urgence. Donc la coopération civile au ministère, c'est ce que nous recommandons, et d'aider, faire confiance à l'armée. Les trois, éviter les rumeurs, les réseaux sociaux qui créent des tensions. C'est le jeu de l'ennemi, il faut éviter cela. Et donc, tous les services sont mis en contribution pour sécuriser l'entité.
Dans ce journal aussi, cette alerte à Lubumbashi, l'ONG Institut de Recherche en Droits Humains, IRDH, accuse la société minière du Katanga Somika de pollution de l'environnement. Dans un communiqué publié hier vendredi, l'ONG affirme que des effluents acides auraient été déversés en avril dernier vers le village Kwampisha, en territoire de Kipushi. De son côté, Somika rejette ces accusations. Le point avec Paul Munanga.
Selon l'IRDH, ces substances acides ont inondé la route du village avant de se déverser dans la rivière Kasonta, dont les eaux sont utilisées par la population. L'organisation indique que ces eaux alimentent également des étangs piscicoles et des canaux d'irrigation, avec des risques pour l'agriculture et la santé. L'IRDH rappelle par ailleurs que ce n'est pas pour la première fois que Somika est pointé du doigt par des faits similaires. Hubert Chiswaka, directeur général de l'IRDH.
Au sein de la division provinciale de mines, il y a un service spécialisé qu'on appelle la direction de l'environnement minier. C'est cette direction de protection de l'environnement minier qui est habilitée à établir s'il y a pollution ou pas. Or, nous constatons qu'il y a déjà deux PV qui datent de 2021 et de 2025 qui établissent la pollution dans les chefs de Somika et il n'y a rien qui a suivi.
En réaction, la société minière rejette ces allégations. Son responsable des ressources humaines, Patrick Baroudi, affirme que des analyses ont été effectuées et qu'aucune pollution n'a été détectée dans la rivière Kibunduka.
Nous avons prélevé des échantillons liquides et solides à Kibunduka, qui est l'alimentation d'Inera par rapport aux eaux qui pourraient provenir Somika. Et là, en vérifiant, le résultat était clair, l'eau n'était pas polluée.
Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Pendant ce temps, une pénurie sévère d'eau potable frappe depuis 2 semaines l'agglomération de Kibirizi dans le groupement de Mutanda. Nous sommes dans la chefferie de Buto, territoire de Rutshuru au nord Kivu. Selon des sources locales, les bandes fontaines aménagées par l'ONG Mercy Corps restent à sec pendant la journée. Conséquence, les habitants se tournent vers des sources non aménagées, s'exposant à des maladies hydriques. Ils lancent un appel aux organisations humanitaires. Bernardine Diambo.
Dès 2h du matin, femmes, hommes et enfants se rendent aux bornes fontaines dans l'espoir de remplir quelques bidons. Mais souvent, les robinets ne donnent pas une seule goutte. Une situation décriée par les habitants, comme nous explique ici Madame Kasoki.
Le problème de manque d'eau nous préoccupe beaucoup. Mercy Corps avait aménagé des bornes fontaines ici, mais l'eau ne coule plus. Vraiment, nous souffrons beaucoup. Aujourd'hui, pour avoir un bidon d'eau, il faut se réveiller autour des 1h du matin pour puiser de l'eau dans ses robinets.
Dans un contexte sécuritaire fragile, les habitants n'ont d'autre choix que de parcourir plusieurs kilomètres pour atteindre des ruisseaux et des sources non aménagées avec tous les risques sanitaires que cela comporte. Madame Anwarit lance un appel.
Depuis tôt le matin, nous n'avons pas d'eau. C'est vraiment déplorable. Aidez-nous à trouver de l'eau potable. Comme l'eau ne coule plus dans des robinets, plusieurs ménages ne savent plus quoi faire. Aidez-nous à résoudre ce problème de manque d'eau.
Face à cette crise, l'association des volontaires et entrepreneurs pour le développement endogène a entamé la semaine dernière des travaux d'aménagement des nouveaux points de captage dans les montagnes de Kanyati à environ 5 km de Kibirizi. Cependant, l'organisation appelle à un appui pour renforcer ses capacités et répondre efficacement aux besoins de la population. Goma, Bernardine Diambou, Radio Okapi.
Les habitants de Kinza au village à Matadi dans le Congo central, eux, vivent dans le noir depuis près de 6 mois. Et pour cause, la cabine d'un particulier qui alimente la localité est tombée en panne à cause de sa vétusté. Désemparée, la population souhaite désormais être directement desservie par la Société nationale d'électricité. De son côté, la SNEL appelle les habitants à la patience. Les détails avec Elise Kavira.
À Kinzaou, dès le coucher du soleil, l'obscurité s'installe. Depuis 6 mois, chacun se débrouille comme il peut pour s'éclairer. Et jusqu'ici, aucune lueur d'espoir ne se profile pour ses habitants. Fatigués d'attendre une solution qui tarde à venir, la population élève la voix et dénonce les conséquences déjà visibles de cette situation, comme en témoigne Roger Nimi, l'un des habitants.
Dès 20h, tout le monde, enfants et adultes, doit être près de sa maison. Parce qu'il y a des criminels venant d'ailleurs qui viennent s'introduire dans les maisons munies d'armes.
De son côté, la Société nationale d'électricité rassure et demande aux concernés de prendre leur mal en patience. Elle affirme que des efforts sont en cours pour débloquer la situation. Plus de précisions avec Gabi Malonda, directeur régional de la SNEL.
On a un transport qui n'est pas loin de ce coin-là. D'ailleurs, j'avais demandé aux responsables de Matadi d'organiser une rencontre avec les représentants de ce coin. Leur dire que l'énergie a un prix. Sauf qu'il y a des préalables. On doit recenser d'abord tous ces gens-là. Ceux qui vont accepter d'ouvrir les dossiers, de commencer à payer les courants semaines, on va les raccorder sur le les transports que nous avons dans les parages-là.
Selon lui, un autre problème complique les interventions. L'accès à la cabine située non loin du village reste difficile en raison du mauvais état de la route qui y mène. Matadi, Elis Kavira, Radio Kapi.
Ici à Kinshasa, l'avenue Kianza fait peau neuve. Les travaux de réhabilitation et de modernisation de cette artère qui relie les communes de Ngaba, Lemba et Makala avance à grands pas. Une équipe de Radio Kapi a fait ce constat lors d'une ronde dans cette partie de la capitale. L'office de voirie et drainage OVD, chargé de l'exécution de ces travaux, pose une chaussée rigide en béton armé, bien plus résistante que l'asphalte classique face aux eaux de ruissellement. C'est un reportage de Blaise Ndongalamayanda.
Ces travaux intègrent la construction et les curages des collecteurs ainsi que des caniveaux afin de permettre aux eaux de pluie de s'évacuer normalement vers la rivière Kalamu, protégeant ainsi la nouvelle route et les habitations environnantes. Pour mettre fin aux inondations récurrentes, la construction des caniveaux de part et d'autre de la chaussée est en cours d'exécution. Les équipes techniques de l'office des voiries et drainage aménagent activement des trottoirs qui accompagneront ces collecteurs. Elles précisent que la largeur de la chaussée est équilibrée à 9 mètres afin de faciliter les croisements des véhicules et de fluidifier les trafics entre les communes d'Engaba, Lemba et les restes de la capitale. Des passages sur ces chantiers, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza, s'est dit satisfait de l'évolution des travaux tout en fixant un délai de 45 jours pour présenter un premier bilan significatif. Face à l'urgence, il a également ordonné un redimensionnement technique du projet accompagné d'une rallonge budgétaire conséquente. Ainsi, l'enveloppe financière est passée de 2,9 à 4,3 millions de dollars américains.
Actualité internationale.
Au Mali, 20 ans de prison, c'est la peine prononcée vendredi hier donc à Bamako par la justice malienne contre un ressortissant français, agent des renseignements français sous statut diplomatique à l'ambassade de France à Bamako. Il avait été arrêté en août 2025 et poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État, ce que Paris a toujours réfuté. Et puis ce samedi 6 juin au Sénégal, le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l'Éthique et la Fraternité, PASTEF, tient son congrès national à Diamniadio, en banlieue de Dakar, prévu depuis plusieurs semaines. Ce rendez-vous prend pour le parti une autre dimension depuis que son chef, Ousmane Sonko, a été démis de ses fonctions de Premier ministre le 22 mai. Il s'annonce comme une démonstration des forces et d'unité.
L'invité.
Il s'agit de Michel Mbuyu Yengayenga, un des responsables du secteur de l'artisanat minier dans la province du Lualaba. Il revient sur l'importance des 33 zones d'exploitation artisanale qui viennent d'être créées par le gouvernement au profit des creuseurs artisanaux. Il fait également une proposition pour une bonne gestion de ces sites miniers. Michel Mbuyu Yengayenga répond aux questions de Paul Amunanga.
Monsieur Michel Mbuyu Yengayenga, bonjour.
Bonjour, monsieur Paulin.
Vous œuvrez dans les secteurs de l'artisanat à Kolwezi. Le gouvernement vient de créer 33 zones d'exploitation artisanale au bénéfice des creuseurs dans les Lualaba. Quelles sont vos impressions, tout d'abord, par rapport à cette nouvelle?
Déjà, je commence par sincèrement remercier le ministère national de Mines en collaboration avec le gouvernement provincial du Lualaba qui ont pensé aux exploitants miniers artisanaux que nous encadrons, bien sûr, parce que depuis un certain temps, il y avait des cris un peu partout où on n'avait pas d'endroit où travailler. Mais de par cette décision de donner 33 zones d'exploitation artisanale, je trouve que c'est une décision louable et nous prions vraiment au gouvernement de continuer dans ce sens, bien que ça ne va pas trop suffire, mais ça va alléger une grande partie des exploitants miniers artisanaux.
Comment est-ce que ces zones d'exploitation artisanale, les 33, ne vont pas suffire?
Là-bas, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises, mais les exploitants miniers artisanaux sont par moment 20 fois plus que les travailleurs qui sont dans les entreprises. En différent quoi? Si on gardait les mêmes 33 zones d'exploitation artisanale pour la province du Là-bas, ça ne va pas suffire. Il y aura beaucoup de creuseurs, beaucoup d'exploitations artisanales dans peu de sites. Or, il ne faudrait pas qu'il y ait beaucoup d'exploitants miniers artisanaux entassés sur peu de sites pour permettre au CIMAP de faire un bon travail de contrôle. Parce que plus vous êtes entassés, plus le danger est grand. Et ça, ce n'est pas quelque chose que nous souhaitons.
Et combien de coopératives y a-t-il au niveau de la province du Lualaba?
C'est au-delà de 100 coopératives. Parce qu'il y a également certaines coopératives qui ont été créées ailleurs et qui se sont installées au Lualaba. On ne sait pas dire non, ou parce que vous avez créé votre coopérative ailleurs, vous ne savez pas. Non, non, non. Tout le monde est libre partout, il est en République démocratique du Congo. Et vu qu'il y a une centaine de coopératives et qu'on a donné seulement 33 zones d'exploitation artisanale, faudrait que l'État puisse penser à organiser des fédérations de coopératives dans différents sites pour que ça ne frustre pas certains et que ça privilégie d'autres.
Et pouvez-vous évaluer le nombre de décréseurs qui œuvrent dans la province du Lualaba actuellement?
En tout cas, dans la province du Lualaba, c'est au-delà de 500 000 créseurs dans différents sites.
Comment est-ce qu'ils travaillaient avant la création de ces 33 EA?
Avant la création de ces 33 EA, les créseurs travaillaient par moment dans les zones sociales laissées par certaines entreprises, bien sûr en collaboration avec le gouvernement provincial. J'ai pu citer certains exemples, comme par exemple le site de T17. Le T17, c'était un site appartenant à l'entreprise KCC, en collaboration avec le gouvernement provincial et les responsables des encadreurs des exploitants miniers artisanaux. Ça a été laissé aux exploitants miniers artisanaux travailler là-bas, mais la saison des pluies n'a pas fait bon ménage et ça a compliqué le travail. Et moi, je trouve qu'avec cette création, ça va vraiment alléger le travail aux exploitants miniers artisanaux.
Donc, ils travaillent comme des clandestins, en quelque sorte.
En tout cas, c'est le mot qu'on a employé, mais aucun d'eux n'entrait sur un site sans l'autorisation au préalable. Mais avec les 33 zones d'exploitation artisanale, là, ils vont travailler sans qu'on les qualifie d'un quelconque nom parce qu'ils sont en train de travailler là-bas. Là, ils vont travailler comme étant chez eux, sans problème, sans être tracassés, sans être traités de clandestins, comme vous venez de le dire.
Et que proposez-vous pour que ces 33 zones d'exploitation artisanale soient utilisées à bon escient pour l'intérêt général des créseurs artisanaux?
Déjà, ce que je pourrais dire pour ce qui concerne la coopérative, il faudrait que le créseur ou l'exploitant minier artisanal soit au centre de leur action. Et vu qu'il doit être au centre de leur action, je proposerai, pour ne pas léser certains et privilégier d'autres, qu'il y ait fédération de coopératives. Donc sur un site, voir deux ou trois coopératives travailler pour l'intérêt des exploitants miniers artisanaux. Mais que cela ne nuise au travail des exploitants miniers artisanaux. Ou sinon, ça c'est ma petite proposition par rapport à ça. Je sais que deux ou trois coopératives œuvrant sur un même site et travaillant dans l'intérêt des exploitants miniers artisanaux, cela pourra alléger les deux camps, si je peux les appeler comme ça. Donc les dirigeants de coopératives et les exploitants miniers artisanaux.
Monsieur Michel Mbuyu Yenga, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, monsieur Paula.
Michel Mbuyu Yenga, un des responsables du secteur de l'artisanat minier dans la province du Lualaba. Et ceci clôture aussi ce journal préparé par Jean Gando, mis en onde par Dieudonné Nyangasa. C'est Babel Pongo Massimango qui vous l'a présenté. À toutes et à tous, merci de votre attention. Bon week-end.